vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode 91. Un lit pour De Gaulle et 100 ans pour Jacqueline. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va un peu remonter le temps puisque nous allons parler du général De Gaulle en Alsace. Il y est resté plusieurs jours, en novembre 1959. Et il fallait bien qu'il dorme confortablement quelque part. Et puis nous allons parler de la vieille Jacqueline, la bonne Allemande de l'épicerie Schreiner Dieparer de Wissembourg, et qui, en 1939, ne savait plus très bien où aller, et qui est décédée le jour même de ses 100 ans. Alors ce sont des histoires que je rédige sur mon blog AFP comme Ambroise Fiction Presse, des histoires banales et alsaciennes, des histoires de gens que vous avez bien connus, des histoires de nos voisins au coin de la rue. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, moi, je trouve que c'est passionnant. À chaque épisode, une musique un peu décalée qui raconte une autre histoire. Ce n'est pas une illustration des textes. Et aujourd'hui, écoutez bien, vous allez entendre un saxo, une trompette, une caisse claire et pourtant aucun instrument de musique dans cet enregistrement. Tout à la voix. Oui, les instruments sont imités en chantant par le groupe vocal, les Miles Brothers, M-I-2-L-S, des enregistrements qui datent des années 1930. Ils ont vendu 50 millions de disques avec 2000 enregistrements aux États-Unis, les Miles Brothers. Première histoire donc, nous sommes en 1959 en Alsace, pour cet épisode numéro 91 de « Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca Strasbourg » et De Gaulle va passer 4 jours en visite officielle dans notre belle région. Un lit pour De Gaulle. Pendant un demi-siècle, les mariés de l'arrondissement de Molsheim envièrent au village de Grendelbruch le menuisier Eugène Poirot. Pour une somme relativement modique, il sciait, frappait, rabotait, tarabiscotait, usait du vilebrequin et de la défonceuse, affleurait, chantournageait, bornoyait et patinait les planches pour assembler la chambre à coucher en merisier que les époux allaient conserver toute leur vie. Le bonheur des cœurs simples, comme chez Flaubert. Eugène Poirot était vosgien, de Rochesson, de l'autre côté de la montagne. Il avait épousé une Alsacienne après avoir survécu à la Grande Guerre, une boche, avait-on dit chez lui, et il s'était alors exilé dans cette commune au milieu de la forêt où l'on évoquait encore la guerre des paysans de 1525. Ses clients travaillaient à la filature ou à la papeterie, et ils avaient toujours énormément de respect pour cet artisan qui, pendant la Seconde Guerre, avait organisé avec ses amis bûcherons l'accueil des résistants alsaciens dans le chalet des Crosscott. En ces premiers jours de novembre 1959, pas vraiment retraité, fidèle à son canon de rouge de mi-journée, voilà qu'accoudé au bar du Crapaud, il voit s'arrêter une déesse noire rutilante. « On cherche Poirot, l'ébéniste !» « Ah, mais c'est moi !» répond Eugène. « Pourriez-vous construire, dans la semaine, un lit de 2,20 m de long ?» Et le fonctionnaire explique qu'il vient de la part du préfet Maurice Cutoli et que c'est le député maire de Strasbourg, Pierre Pflimlin, qui a mentionné son nom, car il possède un buffet de sa construction avec de jolis rideaux qu'il aime beaucoup, parce qu'ils sont en Vichy rose, et que l'affaire est confidentielle et bien payée. le président de la République, le général de Gaulle, va passer 4 jours en Alsace, du 19 au 22 novembre prochain. Une tournée épuisante de 82 villes et villages, et la nuit, il lui faudra un bon sommeil et par conséquent un excellent lit pour reposer, c'est 1,93 m. Mais il faut 2 mois pour fignoler un tel chef-d'œuvre. Vous avez 10 jours. En bon patriote, Poirot releva le défi. La tournée du général fut triomphale, auguste à chacun de ses 17 discours. Poirot vint l'applaudir à Erstein lorsqu'il prit l'autorail pour Wissembourg et quand le dernier jour à Molsheim, de Gaulle prit congé de l'Alsace, on lui présenta l'ange de ses nuits. Charles de Gaulle prit Eugène Poirot à part. Il voulait tout connaître de son beau métier, le choix des essences, les petites sculptures au couteau, les vernis, les assemblages des tenons, des chevilles et des lamelles qui font que rien ne grince lorsque l'on se retourne la nuit. « Vous savez, Poirot, j'emmène votre lit à l'Élysée. Venez me voir à l'occasion. » Vous avez reconnu le thème de Caravane de Duke Ellington par les Miles Brothers, tous les instruments à part la guitare joués par la voix enregistrée le 16 décembre 1937. Deuxième histoire de notre épisode 91 sur Radio Judaïque à Strasbourg, vous l'avez bien connue, c'est l'histoire de la Jacqueline. Cela se passe à Schweigen, c'est le village à 400 mètres de Wissembourg. Vous savez, tout le monde se connaît, on a tellement changé de nationalité depuis 1870 que l'on est tous allemands et français. Un jour, on dira peut-être même, nous sommes tous des juifs allemands. Et la Jacqueline, qui vient de mourir dans mon histoire, elle est morte le jour de ses 100 ans. La Jacqueline, elle a un pied de chaque côté de la frontière. La Jacqueline, des deux côtés de la frontière. Elle est morte à 100 ans. On l'avait un peu oubliée, la Jacqueline, la plus vieille pensionnaire de la maison de retraite de Schweigen. Son jardin touchait aux vignes qui grimpaient le long des collines de Wissembourg. Le chemin servait de frontière entre la France et l'Allemagne. Et c'est une longue histoire. Avant-guerre, Jacqueline était bonne à Wissembourg, à l'épicerie familiale, presque en face de la mairie. Les parents de la jeune fille connaissaient les Bibus, les Schreiner et les Dieparer et ont gagné bien sa vie dans la ville redevenue française en 1918 après la guerre. Et tous avaient de la famille des deux côtés. La douane ne posait pas trop de problèmes puisque tout le monde se connaissait. À 10 ans, Jacqueline était entrée dans la section fille des jeunesses hitlériennes. Il fallait aller à Bad Bergzabern et à 15 ans, elle dut trouver du travail. Et voilà, bonne, c'était la voie normale. Elle rêvait d'être vendeuse et quand elle serait un peu plus grande, elle pourrait faire la boutique. En attendant, elle remplissait les bocaux de farine, de sucre et de moutarde. Elle rangeait les paquets des livreurs. Elle épluchait les légumes pour le repas de tout le monde et gardait les deux petites filles âgées d'à peine 3 et 5 ans, plus jeunes qu'elle, de Madame Dieparer, sa gentille patronne. Elle avait une chambre à elle, près de la grange, au fond de la cour, et les fournisseurs n'avaient pas le droit de lui rendre visite. « Non, elle est trop jeune, » disait l'épicière. Quand ce fut l'évacuation, le 31 août 1939, personne ne savait où l'on s'enfuyait en montant dans les trains bestiaux. Le choix de la ville sera probablement décidé en cours de route. Et Jacqueline s'en alla avec tout le monde puisqu'elle faisait partie maintenant de la famille. Au Dora, en Haute-Vienne, même si tous les évacués parlaient en allemand, comme Jacqueline n'avait pas de carte d'identité française, les gendarmes français trouvèrent qu'elle était une espionne et l'emmenèrent pour l'enfermer dans un camp, peut-être celui de Saint-Paul-des-Jaux, avec des barbelés pour la surveillance, le regroupement et l'internement des opposants de l'administration française qui en profitaient pour instaurer des travaux forcés. La pauvre gamine avait été traquée comme du gibier et Auguste, son patron épicier, alla lui rendre visite pour lui apporter un colis avec quelques victuailles. Il disait, comme tout le monde, qui ne faisait pas de politique, lui, l'épicier, le soldat survivant de Verdun 14-18. Là, face aux gendarmes, il était un bon Français, alsacien. Il était aussi la mémoire de tous les garçons allemands de son âge, morts au front pour le Kaiser. Et il gardait au fond de lui cette hantise d'avoir peut-être reconnu un cousin dans l'assaut des tranchées françaises. Et aujourd'hui, à l'automne 1939, ce n'étaient pas les gendarmes français qui allaient l'impressionner. Ils détestaient le statut de victime que l'on donnait aux évacués et n'avaient aucun respect pour ces fanfarons français qui faisaient la loi en soupçonnant chaque réfugié d'être un Allemand ou un Autrichien ayant fui lâchement leur pays. Ils disaient « fuir le nazisme » ou « d'être communiste » ou « franc-maçon » ou « juif » ou « résistant » ou « tzigane ». Alors ça, c'était dans cet ordre d'indésirables que les gendarmes français posaient des questions. Ça, c'était la liste. Êtes-vous allemand, autrichien, franc-maçon, juif, résistant ou tzigane? On savait déjà que les conditions de l'armistice allaient interdire aux juifs de rentrer en Alsace. Le Gauleiter Wagner avait confisqué tous leurs biens. Tout se savait, parce que l'on avait toujours quelqu'un de la famille dans la Wehrmacht qui racontait entre les lignes de lettres banales un petit peu ce qui se passait, même dans les camps. Cela n'empêchait pas d'avoir envie de rentrer le plus vite possible chez soi, à Wissembourg, redevenue allemande, peut-être parce que l'on n'avait pas l'idée que l'on pouvait envisager autre chose. On verrait bien, et on fera avec. tous les étrangers indésirables étaient donc rassemblés dans des camps de séjour surveillés, les CSS. CSS, camps de séjour surveillés. Bravo les Français. De très nombreuses structures de coercition installées dans des prisons, des casernes, des usines, des camps en plein air, le temps d'une rafle, souvent sans cantonnement. Les insoumis et les déserteurs étaient les plus difficiles à contrôler, mais Auguste l'épicier n'avait en tête que de récupérer sa Jacqueline. Quand il vit les baraquements brinquebalants et le dénuement de tous ces indigents enfermés, il dit que ce n'était pas possible. Il l'a reconnue au loin, dans la foule des gens qui traînaient. Il l'a prise par la main et de sa grosse voix expliqua au gardien que Jacqueline, elle était de la famille, oui, en français, malgré le fort accent alsacien, et les deux rentrèrent à la maison, c'est-à-dire dans la cave, sous l'école du village. Ce n'était pas facile de trouver une maison disponible au Dora. Après la guerre, la Jacqueline resta dans la famille. Elle s'occupera plus tard des bébés des deux filles. Elle servait maintenant au magasin. Elle ne parlait pas beaucoup. Aller à Schweigen était devenu très compliqué. Il fallait se cacher et passer comme avant, par le vignoble. C'était vraiment la misère là-bas. Les Allemands n'avaient pas le droit aux médicaments des Américains. Alors pour apporter de la pénicilline à sa mère, Jacqueline cachait la piqûre dans des bottes de pissenlit et faisait semblant de se perdre sur le chemin pour poser le panier derrière une petite cabane. Après 1945, de l'autre côté de Wissembourg, tout n'était que détresse. La capitulation, les habitants allemands n'y pensaient pas. Ce n'était absolument pas dans les esprits, parce que simplement, on n'avait qu'une seule préoccupation, la misère. Et Jacqueline était là, dans les ruines de la ferme de ses grands-parents, avec la faim et le cadavre qu'on découvrit des mois plus tard sous les décombres. C'était le temps des loups, des milliers de gens qui, pour survivre, s'agrégeaient en meute. Toutes les villes étaient sous les gravats en Allemagne. 9 millions d'habitants évacués, 14 millions de réfugiés et d'expulsés de l'Est, 10 millions de travailleurs forcés et de détenus survivants des camps soudain ouverts et les 10 millions de prisonniers de guerre qui cherchaient... Mais c'était où maintenant, chez eux? Et tous sans abri. Plus rien ne fonctionnait, ni le courrier, ni les trains. Les hivers 1946 et 1947 furent terribles. La débrouille, mais aussi une solidarité collective étonnante, réveilla la population allemande. On dit alors que, comme des enfants qui passaient sans transition d'une activité à une autre, ils occultèrent les années Hitler. Et dans cette misère, que les forces alliées cherchaient vraiment à apaiser, les Allemands commencèrent à se considérer comme des victimes. Et beaucoup s'enfermèrent dans l'idée que, de ce qui s'était passé, le peuple n'en était pas coupable. La presse analysa ce chaos comme étant un terrain de jeu pour ceux qui avaient survécu à la guerre. Et quand certains plongeaient dans l'apathie, pour d'autres, ce fut une joie de vivre éruptive, la proximité constante de la mort augmentant immensément l'impression de vivre. Dans cet après-guerre, la Shoah était absente de la conscience collective allemande. Le refoulement et le silence accompagnaient cet échappatoire de se considérer comme des victimes, pour s'épargner la tâche de penser aux victimes réelles. Harald Jenner, un journaliste allemand, écrira qu'on ne peut pas comprendre la misère si l'on ne comprend pas le plaisir qu'elle procure, c'est-à-dire de réussir à y échapper. Alors Jacqueline avait parfois des paquets de Lucky Strike, elle qui ne fumait pas. des paquets de précieuses cigarettes américaines ramenées de Berlin par un vague cousin survivant. Les Lucky Strike valaient une fortune au marché noir. À Wissembourg, l'épicerie était redevenue française. La Jacqueline allemande échappait au malheur de sa condition, mais il lui fallait faire profil bas quand de bons Alsaciens, soudain patriotes bleu-blanc-rouge, clamaient refuser d'être servis par une Schleu, par une Bosch. En 1958, quand l'épicerie fait faillite parce qu'une supérette s'adale, s'installa à côté et que l'épicier et sa femme tombèrent malades, elle le cancer et lui la tristesse du cancer de sa femme adorée, la Jacqueline se trouva seule à leur mort. Elle était plutôt vieille, elle avait 34 ans, mais maintenant la douane devenait plus facile à affranchir. Elle fit les 800 mètres pour rentrer à Schweigen, oubliée tout de suite par les clients wissembourgeois qu'elle connaissait pourtant chacun personnellement, et chacune de leurs habitudes, leurs dettes impayées, leurs magouilles sur les remboursements de dommages de guerre et tous leurs souvent bien sales secrets. Elle put encore se marier, avoir deux enfants qui eux aussi l'oublièrent rapidement, et comme elle rendait service en faisant le ménage à la maison de retraite, quand il y eut une place de libre, elle s'y installa. Personne ne parlait du passé. D'autres années passèrent. Et ces années aussi, aujourd'hui, sont déjà oubliées.
It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing. All you do is start to sing. Makes no difference if it's sweet or hard. You've got that rhythm, give it everything you've got. Oh, it don't mean a thing if you ain't got that swing.
C'était les Miles Brothers, un autre thème de Duke Ellington, I Don't Mean a Thing. Tout l'orchestre joué par la voix. Il y a des enregistrements vidéo, mais vraiment géniaux sur YouTube. Et ça, c'est un enregistrement de juin 1932. Et le titre veut dire en gros que cela n'a aucune importance. I Don't Mean a Thing. Et c'est justement cela, ce qui n'a aucune importance, que je trouve intéressant. La semaine prochaine, on va faire de la poterie avec Jules César à Dinsheim. On va rire avec les veuves des petits lapins quand il y a des accidents de chasse. Et on va participer au Tour de France qui passera en Alsace pour la première fois, c'est en 1919. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom, poum, 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 poum. Non mais ça c'est pan pan, c'est un chasseur qui me vise. Ah, mon nom c'est Ambroise Perrin.
Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever.